Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous au fil de la prochaine heure. Comme à toutes les semaines, on plonge dans la sphère du 9e art, dans la sphère de la bande dessinée. On en est d'ailleurs à notre 22e épisode pour cette 10e saison de l'émission. Et un épisode qui s'orientera un brin vers des notions de quête personnelle, de quête identitaire, de bilan. Alors, on dirait qu'il y a un peu une thématique qui a perméabilisé cette édition de La Vie en BD, et donc qui a perméabilisé les choix et les albums aussi qu'on va mettre de l'avant au fil de la prochaine heure. Notamment en deuxième moitié d'émission, Stéphane Gravel sera avec nous. Comme il est tradition, désormais, elle vient faire un peu un bilan de ses lectures du mois. Et ces lectures du mois l'ont amené justement vers des notions de quête, quête personnelle, quête identitaire, mais peut-être un peu inconsciente, qui sait, au fil de déplacements sur les routes du Québec qu'il fait dans le cadre de son travail. Alors, ça l'a amené à s'intéresser à ce type de récit et c'est ce qu'il va nous partager. Donc, je le rappelle, ça c'est en deuxième moitié d'émission. Et en première moitié d'émission, on va jaser donc dans quelques instants là, avec Audrey Beaulé autour de sa bande dessinée La Vin, qui est publiée du côté des éditions mécaniques générales. Double titre, donc d'un côté La Vin, l'autoroute entre Québec et Montréal, le déplacement. Alors encore là, un peu comme Stéphane, on est sur cette idée de route, de déplacement, de parcours qui teinte un peu les réflexions qu'on peut avoir, qui nous force peut-être un peu à faire ses bilans, à faire ses regards, ses analyses. Et Audrey Beaulé a pris cette vin et cette excuse, entre guillemets, donc de déplacement pour porter un regard sur l'autre vin, la vingtaine, donc des années qu'on traverse, qui forgent l'être qu'on devient et qui sont forgées aussi par l'être qu'on a été, des années bien souvent charnières. Alors, un album qui s'appelle La Vin, qui prend des allures de bilan, qui prend des allures de mise en perspective, une riche introspection qu'on avait envie d'explorer en compagnie de son autrice. Alors ça, ce sera dans quelques instants, ici à La Vie en BD. On plonge maintenant et on est un peu en mode rattrapage puisque l'album est arrivé l'automne dernier chez les libraires, mais on avait envie de vous en parler. Il s'agit de La Vin d'Audrey Beaulé, un album qui est arrivé du côté de Mécanique Générale. Et l'autrice est avec nous pour en discuter. Audrey Beaulé, bonjour.
Bonjour.
Alors d'emblée, si on avait un peu à décrire La Vin, je me disais, en fait, j'ai envie de dire que c'est un album qui a des allures de bilan, d'état des lieux, c'est une introspection. C'est l'histoire d'un parcours humain sous fond d'un parcours automobile, dans le fond.
Oui, exactement. C'est l'idée de faire un parallèle entre la vingtaine puis l'autoroute 20. Puis vraiment de plonger comment la route peut nous plonger elle-même dans des introspections. Puis finalement, c'est une bande dessinée qui oscille entre des éléments réels vus sur l'autoroute, puis des éléments qui font écho à la mémoire du personnage, finalement.
Et l'idée, justement, du parallèle entre la vingtaine et la vingt, et le contexte, dans le fond, méditatif du déplacement automobile, est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé rapidement au fil de l'écriture ou qui est venu en cours de route ou d'entrée de jeu?
C'était d'entrée de jeu assez présent. Je ne savais pas que ça allait aller plus vers une auto-fiction. Au début, c'était plus un personnage, c'était plus axé vers une fiction, mais à partir d'éléments personnels, d'une idée plus personnelle. Mais ça a rapidement filé vers une auto-fiction un peu plus en cours d'écriture. Mais finalement, ça avait été vraiment présent assez d'entrée de jeu que c'était ces allers-retours-là de la mémoire, puis du paysage, ouais.
Donc, dans le fond, c'est l'aspect autofiction, dans le fond, qui lui s'est rajouté, puis qui s'est inséré, dans le fond, en cours de création, où finalement, ça devenait plus facile, plutôt que d'essayer de faire parler un personnage, d'aller avec votre vécu, avec ton vécu, ton ressenti, ta perception des choses.
Ouais, exactement. Puis, c'est mon premier projet de bande dessinée, donc j'avais l'impression que pour être vraiment authentique, il fallait que je parle au jeu dans un récit de soi, plus que j'avais de la misère à adopter le personnage au début. Puis finalement, ça c'est venu vraiment naturellement que des mémoires se sont tissées avec le récit et tout. Puis c'est comme ça que l'écriture a avancé de plus en plus. On faisait des allers-retours entre l'éditeur et moi-même. Ça a été du travail vraiment plaisant à faire, ce travail d'écriture-là, vraiment.
Oui, au début, en fait, le fait que tu t'es pas lancé d'entrée de jeu vers un côté un peu plus autofiction? Est-ce que c'est parce que tu avais un recul ou en fait, ou le moment où tu allais décider de laisser les portes ouvertes finalement, puis de dire, bon, OK, non, c'est cette voie-là qui vient naturellement, je me lance, je me plonge. Est-ce qu'il y avait une hésitation un peu à se lancer? Parce que le propos qui en ressort reste qu'aussi, c'est tu nous entraînes dans ton intimité, il y a un côté privé intime dans ce que tu nous amènes. Et je trouvais intéressant qu'il soit venu un peu naturellement dans la création comme ça.
Oui, mais je pense que ça venait pas au début parce qu'il me manquait peut-être un courage de vulnérabilité, comme je pourrais dire. Puis, plus en plus que l'écriture avançait, je pense qu'il y a un courage qui venait, qui s'accompagnait. Puis, c'est avec quand j'ai senti ce courage-là, j'ai réussi à plonger parce qu'évidemment, c'est différent d'écrire pour soi-même, puis d'ensuite le publier. Donc, là, finalement, je me suis dit, je vais y aller à fond dans l'autofiction, puis l'assumer. Puis voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à cette bande dessinée-là.
Oui, puis en fait, puis la vin, dans le fond, dans son aspect, au fil d'arrivée, dans le fond, prend un peu un côté aussi journal intime, parce que, dans le fond, en termes de structure, c'est des réflexions qui amènent à d'autres réflexions, qui amènent à des constats, c'est construit et déconstruit en même temps un peu. Dans le fond, on sent il y a une logique, il y a un fil d'Ariane, une construction de réflexion, mais on va sur des anecdotes, sur des regards, sur des constats, et ça devient quelque chose de très organique, je trouve, comme structure de récit.
Ben, tant mieux, c'est sûr que c'était mon souhait à la base, parce que je travaillais des fois par fragments, puis ensuite je retravaillais des fragments pour les unifier, puis c'était vraiment un travail, non pas d'une narrativité de A à Z, mais de fragments qui venaient, c'était comme un peu un puzzle à un certain moment pour vraiment que les éléments du réel puis les éléments de la mémoire puissent avoir un sens, puis vraiment se coordonner. Donc, ça a été un jeu d'assemblage assez intéressant à faire, ouais.
Oui, mais j'imagine en fait parce que, évidemment, il y a le côté visuel qui était très présent là-dedans. Puis je vois un peu l'aspect collage aussi dans la mesure où il n'y a pas, tu sais, pas imposé un gaufrier fixe, un format de page fixe, une approche narrative fixe non plus. Donc, il y a des éléments où le texte est plus présent, d'autres où le dessin prend toute la place. Des fois, c'est simplement une phrase sur une page. D'autres fois, on va avec beaucoup d'informations, avec un récit. Donc, c'est aussi, tu sais, je trouve que tu t'es offert une belle liberté là-dedans qui est au bénéfice de l'album, mais que ça veut dire aussi que j'imagine chaque page. J'aimerais que tu nous parles peut-être un peu de la méthode de travail, peut-être autour de ça, pour en arriver à ce type de récit-là, puis en arriver à l'assembler peut-être aussi par la suite, là.
C'est sûr que pour cette bande dessinée-là, j'ai vraiment écrit le texte tout d'abord. Puis c'est une fois que le texte a été final, que les corrections étaient à peu près faites, que j'ai entamé les dessins. J'avais fait des croquis pour l'idée au départ, mais bien que je faisais quelques croquis en écriture, c'est pas des croquis qui se retrouvent nécessairement dans la bande dessinée. Mais vraiment, les dessins finaux, je les ai faits après le texte. Puis, comment je travaillais mes doubles pages, je me faisais des croquis miniatures pour positionner le rapport au texte puis le rapport à l'image. Puis finalement, ensuite, j'ancrais au crayon noir, puis ensuite, je faisais une planche finale. Donc, c'est comme des dessins un peu en trois étapes là, que j'ai fait. Puis ça m'a vraiment aidé à construire que chaque double page sont comme une image ensemble, puis que chaque double page se réponde aussi, autant par le texte que la balance graphique. Puis c'est ça que j'espérais créer. Je ne sais pas si ça a cet effet-là, mais dans ma conception, c'est l'effet que je voulais donner le plus possible.
Oui, puis avec en fait les moments où on arrive, je mentionnais les phrases qui prennent la pleine page, bien, on lit, on découvre, puis là, oups, OK, ça force un temps d'arrêt dans le fond. On sent peut-être qu'à ce moment-là, pour toi, c'est un constat, c'est un peu entre guillemets, une révélation en lien avec le texte et les éléments qui arrivent, puis ça force un peu à la pause, puis à une mise en une mise en une réflexion, puis après ça, oups, on respire, on repart. Donc ça crée aussi un rythme à travers ça, à travers cet équilibre-là, dans le fond, entre le texte et le dessin.
Oui, absolument.
Et ça, c'est beaucoup, dans le fond, j'imagine aussi au montage, un peu instinctivement, où à un moment donné, on se dit, OK, cette phrase-là, je veux qu'elle soit vraiment mise en évidence, donc elle va avoir son espace à elle. Un exercice de trouver cet équilibre-là, dans le fond, puis de trouver l'équilibre dans lequel tu es confortable, dans lequel ça répond à ce que tu as besoin que ce soit, dans le fond. Est-ce que ça a été complexe? C'est venu naturellement ou...
C'est venu naturellement quand je faisais les croquis assez petits, parce qu'il y a il y a certains fragments que je trouvais qui étaient importants, puis que justement, je voulais marquer ce temps de pause-là, parce que évidemment que la bande dessinée, les idées défilent, tu sais, c'est sur l'autoroute, il y a une idée de vitesse aussi qui s'en dégage, donc les réflexions abondent, puis j'ai l'impression que ces marqueurs-là de pleine page, de typographie qui prennent une page entière ou une double page, ça venait marquer un petit temps de pause, un petit souffle à travers la vitesse un peu qui se dégage du récit, vu que c'est sur l'autoroute et en mouvement, comme je disais.
Et c'est le genre de truc où j'imagine à un moment donné, c'est toutes tes pages sont sur un mur ou quelque chose, puis là tu commences à jouer avec un patchwork qui est dans cette double page-là, où on joue un peu avec cette dynamique-là aussi, dans la mesure où encore là, il y a un certain côté chronologique, mais pas tout le temps non plus. Donc on revient un peu à la nature de la construction un peu tentaculaire de l'avant, si on peut dire.
Ouais. Puis souvent, il y en avait d'affichés littéralement sur mon mur aussi des images. Là, je travaillais dans une pièce à la maison pour cet album-là. Puis il y avait une grande partie du mur qui avait des dessins avec des petits scotch tape. Puis ça m'aidait justement aussi à visualiser. Puis bien que ça se faisait aussi dans la mise en page finale dans InDesign, mais bref, sur le mur, il n'y a rien comme tel.
Et si on revient, en fait, on disait, dans le fond, c'est l'écriture qui est venue au départ, je mentionnais de mon côté qu'il y a quand même une belle intimité à l'intérieur de l'avant, à l'intérieur de ce que tu nous y offres. Comment ça s'est passé de ce côté-là? Est-ce que, bon, en fait, d'emblée, il y avait déjà des thématiques, puis on arrive un peu à lancer un premier jet ou des premiers jets, ou au contraire, parce que on ouvre des portes aussi, tu racontes des beaux moments, mais tu en racontes aussi des difficiles, des doutes, des craintes, des pressions. Donc, tu sais, pour toi, c'est comme, OK, est-ce que je vais ouvrir cette porte-là? De quelle façon je l'ouvre? De quelle façon je parle de ci, je parle de ça? Puis que, je dirais pas une certaine douleur, mais une certaine difficulté peut-être aussi à amener certains éléments. Et donc, que ça coulait pas nécessairement toujours de manière hyper spontanée non plus. Donc, comment ça s'est passé un peu l'écriture, l'ouverture de ces portes-là?
Bien, tout d'abord, c'est sûr que j'avais extrêmement confiance en l'éditeur avec qui je travaillais. J'avais une confiance à partager mon écriture. Donc à ce niveau-là, c'est sûr que ça s'ouvrait quelque part. Puis l'écriture, ça a été en plusieurs mois. Donc c'est sûr, des fois, je prenais du recul sur ce que j'écrivais. Puis ça m'aidait aussi à voir qu'est-ce que je veux vraiment dire, qu'est-ce que je veux retirer, etc. Puis c'était tout le temps un peu sur. Je revenais tout le temps un peu au questionnement que j'ai pas encore la réponse, évidemment, mais qu'est-ce qui mérite d'être dit, puis comment dire les choses, puis jusqu'où se dévoiler aussi, parce que c'est sûr qu'on se met vulnérable à travers l'autofiction, puis je voulais bien doser les choses et tout. Donc c'est ça, ces questions-là m'habitaient beaucoup, je dirais. Puis à un certain moment, il y a des. Et ça s'est précisé ce que je voulais dire et ce que je voulais moins dire, etc. Puis c'est ça s'est cristallisé de cette façon-là. Puis mais c'est des questions assez importantes où est-ce que j'ai eu envie que, oui, d'aborder des questionnements puis des moments personnels, mais j'avais toujours en tête de me dire, est-ce que je suis la seule qui a vécu ça, ou est-ce que ça peut être partagé collectivement? Puis je pense que mes décisions se sont prises un peu sous cette lunette-là, je dirais, de me dire, tu sais, par exemple, j'aborde la santé mentale à l'université, donc ça, je sais que je suis pas la seule à l'avoir vécu. Puis autant que je parle de deuil des grands-parents, par exemple, puis ça aussi, c'est quelque chose de collectif, donc j'essayais tout le temps de faire des ponts comme ça pour légitimer un peu de quoi je voulais parler.
Puis j'imagine qu'à un certain degré aussi, on commence à écrire un épisode, un élément, on avance sur un côté, puis après ça, en cours d'écriture, on se dit, bon, OK, non, ça vaudrait peut-être la peine que j'aille là, ça faudrait que j'amène cette thématique-là, puis qu'il y a des choses aussi qui sont venues d'elles-mêmes quand on parle de peine d'amour, quand on parle de la mort de ta grand-mère, des éléments, mais est-ce que dès le départ, tu dis, OK, non, ça, cet épisode-là, je pense qu'il faut que j'en parle, c'est incontournable, ou à un moment donné, en cours d'écriture, tu t'étais placé dans une situation où tu étais rendu là, peut-être dans le bilan, dans le regard que tu portais sur la vingtaine.
Mais je pense qu'au début, j'y allais comme si personne n'allait me lire. J'ai vraiment tout écrit. Puis c'est après le travail qui est venu de me dire qu'est-ce que je choisis. Parce qu'il y avait beaucoup de choses, puis c'était pas, tout n'était pas pertinent. Donc, c'est plus dans un deuxième travail que ces précisions-là ont été faites. Parce que j'avais l'impression que de commencer de l'inverse, j'allais pas réussir à trouver tous les éléments parce que j'allais comme me bloquer dans un certain sens. Donc, c'était vraiment les premiers jets d'écriture, c'était comme d'ouvrir les valves un peu, puis après d'avoir un regard sur qu'est-ce qui en ressortait.
Oui, ça devient une démarche, j'imagine, intéressante aussi, parce que du moment où on ouvre les valves, d'un côté, des fois, tu te rends compte qu'il y a des trucs que tu pensais régler qui ne le sont pas nécessairement, mais en même temps, ça te donne l'opportunité de les régler. Puis autant, j'imagine qu'après ça, de prendre un recul par rapport au texte que tu as livré quand tu as ouvert les valves, comme tu dis, puis là, de faire le travail de « OK, mais qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas? » Subitement, on prend une distance aussi qui s'installe entre notre ressenti puis le traitement qu'on va en faire. Donc, ça évite d'être dans obnubilé un peu par l'émotion, si on peut dire.
Oui, absolument. Oui. Ce recul-là, je pense qu'il, en tout cas pour moi, il était nécessaire puis il est important. Je pourrais pas parler pour tout le monde, mais dans mon cas, ça a été. Je trouve que ça, c'est comme ça que j'ai réussi à créer le récit, à créer la bande dessinée.
Puis j'imagine en parallèle que, parce que Lavin, c'est un album de bilan, donc j'imagine que le regard externe que tu donnes aussi sur ce que tu as fait va influencer le regard que tu portes ou le bilan que tu fais et que tu nous offres. Donc en même temps, ça devient un peu entremêlé, entrevêché, tout ça.
Oui, dans un sens, oui.
Et l'idée, peut-être, en fait, c'est si on remonte au départ, parce qu'on parle beaucoup de bilan, justement, de l'idée de la vingtaine au-delà de l'autoroute, donc l'autoroute comme occasion de faire un bilan, de revenir sur un parcours en faisant un parcours. Pourquoi, justement, se dire, ben, OK, j'ai envie, j'ai besoin de faire ce bilan-là, de faire un exercice où je vais porter un regard sur une période, puis je vais essayer de comprendre qui j'étais, comment je me plaçais à l'époque, puis comment le moi de cette époque-là a finalement tissé ce qui est devenu le moi aujourd'hui.
C'est une bonne question. En fait, j'ai l'impression que oui, il y avait une part de la bande dessinée est née d'une nécessité, d'un besoin d'aborder certains sujets, mais aussi j'avais l'impression que dans le paysage que je connaissais de livres qui parlent de la vingtaine, j'avais l'impression que souvent c'était très beau, c'était le rêve, c'était comme tout est possible, la force et tout. Puis j'avais l'impression que ma réalité était tout autre. Puis on dirait que c'est par ça que j'avais envie de communiquer parce que pour apporter justement une autre façon, un peu plus dans les marges peut-être, mais de dire il y a d'autres vingtaines que la vingtaine où c'est la plus belle période de sa vie, par exemple. Donc, c'est à la fois ces deux aspects-là, je dirais, à la fois que oui, j'avais besoin de le faire, mais aussi que je voulais apporter peut-être ça à la bande dessinée ou je sais pas, dans le paysage un peu de l'imaginaire de la vingtaine.
Oui, puis à la limite, en fait, d'un point de vue pratico-pratique, j'ai l'impression que les vingtaines, la plus belle période de la vie, c'est pas nécessairement le cas de la majorité. Les vingtaines ordinaires avec les questionnements, les drames, le mal-être, c'est pas, y a un côté universel dans cet aspect très personnel, c'est au final. Puis j'imagine que ces genres de retours aussi, s'il y avait eu des salons du livre cette année ou des choses comme ça, ces genres d'albums qui appellent à un certain dialogue et à une expérience partagée aussi, au bout du compte.
Oui. Puis j'avais en tête aussi que ça touche les personnes qui vont entrer dans la vingtaine ou qui ont 20 ans. Mais finalement, j'ai été vraiment surprise de voir que les personnes qui ont lu le livre, il y en a qui ont plus 50 ans ou 40 ans, mais ça les a touchés aussi. Chose que je pensais pas que ça allait avoir. Je pensais pas que ça allait être ça, mais je suis vraiment heureuse de le constater. Puis, en tout cas, entre autres, il y a une classe au cégep qui ont lu le livre, qu'on m'a mentionné ça. Puis, ça m'a fait vraiment plaisir de voir que des classes pouvaient le lire puis se questionner sur le sujet.
Oui, puis en fait, puis c'est le questionnement, il y a sur la vingtaine, puis après ça, sur plein d'éléments, évidemment, les pièces de ce casse-tête-là que tu nous offres. On prend un exemple, en fait, parce qu'on est entre la 20 et la vie, entre l'enfance et la vingtaine, entre la noirceur et la douceur. Il y a beaucoup d'aspects qui t'ouvrent là-dessus, tu sais, ne serait-ce que, par exemple, le moment où on fait le choix de quitter le nid familial. Où on met de la distance entre nous et nos parents, puis où on réalise a posteriori que notre relation avec eux ne sera plus jamais la même, que la distance s'installe, puis que quand on revient, on n'est plus les mêmes, puis ces réalisations-là, dans le fond, autour desquelles on ne met pas nécessairement de mots non plus. Donc ça peut-être c'est un point d'ancrage, dans le fond, la notion entre guillemets d'exil, même si c'est juste à 3 heures de route, ça reste 3 heures de route, là, au bout du compte.
Oui, puis c'est. J'ai l'impression que cet exode-là vers les grandes villes est assez présent, entre autres Québec-Montréal, mais ça peut être Gatineau-Montréal, ça peut être Sept-Îles-Montréal. Et puis j'ai l'impression que ça aussi, j'étais pas la seule à le vivre. Puis c'est sûr que c'était important dans la bande dessinée, cet aspect-là, oui.
Ou autour des enjeux, par exemple, sur la notion un peu de succès professionnel, travailler dans son domaine et le reste, ou à un moment donné, tu travailles dans des cafés, puis tu dis, regarde, je me sens un peu honteuse de ce job-là. Si quelqu'un me voyait, ben, tu sais, je travaille pas dans mon domaine alors qu'il y a plein de gens qui. Donc, ces sentiments-là aussi, ça, à un moment donné, on sent en fait que tu essaies beaucoup, que tu essayais beaucoup à cette période-là de savoir, mais je suis qui moi d'un point de vue professionnel, je suis qui moi d'un point de vue personnel, c'est quoi ma relation avec ma famille. Donc, c'est plein d'éléments qui viennent construire, mais entre autres, c'est un exemple, tu parles un peu de santé mentale à l'université, donc autant dans le processus d'études qu'autant après, où on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a appris finalement.
Puis souvent on a la vision, on entre le premier jour, que ce soit à l'université ou peu importe, dans une école, puis j'ai l'impression que on s'imagine la vie qu'on va avoir après, mais c'est pas tout le temps en corrélation avec ce qu'on pensait que ça allait être. Mais au final, j'ose espérer que quand on fait nos études, parce qu'on a une soif d'apprendre, puis tout. Fait, moi, de mon côté, je me suis rendu compte que j'ai étudié ce que j'ai fait. Ben, j'ai étudié ce que j'ai étudié parce que ça m'intéressait, j'étais curieuse et tout. Pas nécessairement pour avoir la vie qui venait après. La vie un peu. Que la majorité des finissants-finissantes avaient, par exemple. Moi, je me suis retrouvée à travailler dans un café, puis finalement à faire une bande dessinée. Puis je ne pensais pas que c'était nécessairement des choses qui allaient arriver dans ma vie, mais au final, j'en suis assez heureuse. Donc oui, c'est ça. C'était un peu de déconstruire les attentes qu'on a envers nous-mêmes, puis de se laisser aller avec qu'est-ce qui arrive avec le paysage et tout.
Oui, en fait, comme si on nous envoie un peu dans une logique où la vie est linéaire, tu sais, que l'objectif, puis que le chemin qui est tracé, un peu la 20 d'un peu tout le monde, c'est la ligne droite entre Québec et Montréal, alors que dans les faits, la vie, c'est les méandres autour de cette ligne droite-là, puis c'est finalement que le méandre nous amène vers d'autres lignes, vers d'autres éléments, il y a des événements chocs, des moments plus difficiles, des décisions qu'on prend dont on prend pas conscience de l'impact que ça a réellement, mais que justement quand on arrive à faire un bilan, on se rend compte que aussi, j'imagine, tel événement, tel choix, telle décision a eu un impact qui est beaucoup plus important que ce qu'on avait escompté.
Oui, exactement. Ouais. Puis le parallèle entre la route puis la vie est assez simple, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu sais. En tout cas, moi, ça me parlait énormément à force de faire les allers-retours. Je réfléchissais tellement sur la vie, puis c'était philosophique presque dans des moments de covoiturage, autant en parlant avec les personnes que dans des moments d'introspection, mais... Oui, comme tu dis, j'ai l'impression que la route puis s'entremêle bien avec la vie, ouais.
Et de ce bilan-là, dans le fond, est-ce que tu as l'impression, parce que une première BD, au bout du compte, t'apprends aussi à t'approprier à ta façon le médium, puis en parallèle, tu choisis aussi de faire un défi d'autodéfinition. Est-ce que à travers cette autofiction-là, tu as réussi à aller chercher des réponses que toi, tu avais besoin au départ quand tu t'es lancé vers cet exercice-là? Ou est-ce qu'un peu à l'image de l'existence, ça t'a amené simplement ailleurs, puis à trouver des réponses que tu ne t'attendais pas à trouver ou des questions que tu ne t'attendais pas à trouver?
Ben, je pense que j'en parle un peu en conclusion. J'ai l'impression que, je ne sais pas si je devrais en parler parce que ça conclut un peu la bande dessinée, mais je vais juste dire comment la bande dessinée conclut. C'est un peu le mot d'ordre sur lequel je suis restée, que je trouve qui est doux, qui est plein de bienveillance, puis que, comment je pourrais dire, qui n'est pas fixe non plus, puis qui accepte un peu le mouvement des choses, puis qui est plus flexible, puis qui a une ouverture envers ça. Je trouve que ça devient un élément plus bienveillant envers nous-mêmes aussi. Donc, je ne vais pas en dire trop là-dessus, parce que pour les personnes qui n'ont pas lu la bande dessinée, mais je pense que la manière que je conclue, c'est un peu... La fin n'était pas prévue dès le départ dans l'écriture, puis j'ai l'impression que à force de faire le livre, c'est vers ça que c'est comme un peu la réponse que j'ai trouvée, qui va pas être fixe non plus, mais que bref, je vais laisser les personnes qui n'ont pas lu la bande dessinée peut-être la lire pour comprendre, mais c'est vers la conclusion que j'en suis toujours, en fait.
Puis en fait, au-delà même de la conclusion, pour moi, un album comme ça, c'est beaucoup de mise en dialogue où, dans le fond, oui, on t'a pas toi directement, mais on a accès à une certaine intimité. Il y a une part d'autofiction ou d'adaptation, évidemment, mais nécessairement, c'est le chemin qu'on fait avec toi aussi qui va nous amener, oui, à profiter de tes réflexions, mais à forger les nôtres aussi, parce que veux pas à lire un parcours intime, sincère, ça appelle, à mon sens, à s'approprier peut-être un peu cette réflexion-là, à se demander sur son parcours, puis à se placer en dialogue, finalement. Puis la question va plus être de savoir si notre conclusion au terme de ce parcours-là va être la même chose que la conclusion que toi, ce parcours-là t'a amené. Et le dialogue qui va s'installer peut-être un peu plus philosophique ou existentiel après l'album, c'est ça aussi qui représente, à mon sens, l'intérêt d'un travail comme celui que tu as fait avec Lavin. D'inspirer le parcours.
Mais j'ai pas la réponse de ça, mais si tout ce que je peux souhaiter, c'est que ça ouvre un dialogue, justement. Puis certaines personnes que je ne connais pas m'ont écrit, puis m'ont raconté un petit peu un fragment de leur histoire, parce qu'il y avait des éléments qui faisaient écho avec mon récit. Puis ça, après un premier projet, je ne savais même pas que ça se faisait, ça. Je ne savais même pas ce que ça allait arriver. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée profondément, là, de voir que ça peut avoir un écho ou une résonance chez les autres à se positionner dans leur propre vie, dans leur propre existence, puis d'avoir une réflexion. Puis c'est vraiment le souhait que je peux avoir le plus fort, finalement.
Et tout ça dans le contexte d'une approche, une approche visuelle qui était déjà la tienne avant que, en fait, c'est dans le fond, de voir un peu de quelle manière le style visuel, ton approche, ton dessin, ton médium pouvait venir amplifier ce récit-là, mais dans la continuité aussi de ta démarche, de ton travail artistique d'avant la BD, puis j'imagine d'après cette première BD-là aussi.
Puis trouver la forme finale n'a pas été évidente parce que j'avais des milliers d'idées. Puis au départ, j'essayais aussi de cadrer avec comment je me fais une idée de la bande dessinée. Puis plus j'allais vers ça, plus ça marchait pas. Ça, c'était évident. Puis à un certain moment, j'ai pris une pause, puis je me suis juste dit, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Pour faire autant de pages, il faut quand même avoir un certain plaisir à le faire. Puis j'ai juste pris une pause, puis je me suis dit, je vais dessiner comme le plus naturellement possible, où j'ai du plaisir à le faire, puis en n'ayant pas une idée construite de comment je devrais le faire. Puis ça aussi, ça a été un moment où est-ce que j'ai dû me faire confiance, parce que c'est finalement là que j'ai trouvé comment le livre allait être, de manière dessinée et graphique. Puis j'avais fait une planche, je l'avais montré à mon éditeur, puis on savait que ça allait être ça. Puis D'ailleurs, c'est ça, j'utilisais de l'encre gris bleuté avec de l'encre noire et des crayons noirs, puis du crayon de graphite. Puis pour le livre final, au départ, il était en noir et blanc, mais finalement, ça a l'air d'être un noir et blanc, mais c'est une couleur Pantone d'un bleu très foncé qui ajoute un peu une profondeur sur le papier crème. Donc, oui, c'était vraiment un voyage, ça aussi, de trouver. Comment dessiner l'entièreté de la bande dessinée, oui.
Oui, puis je trouve intéressant, en fait, c'est qu'au bout du compte, j'ai l'impression qu'il y a un peu une démarche similaire à ce que tu avais fait au niveau écriture, où à un moment donné, l'écriture, ben, c'est comme tu lâches, on pense pas au lecteur, on écrit pour soi d'abord, puis après ça, on revient, on organise, mais ben, qu'à un moment donné, le déclic au niveau du dessin soit un peu du moment où on oublie un peu l'idée qu'on a de ce que ça devrait être, puis qu'on laisse aller les vannes, dans le fond, pour trouver de manière peut-être un peu plus organique puis naturelle ce que ça va être finalement.
Oui, exactement. Donc, c'est ça, dans les deux cas, j'ai l'impression que c'était beaucoup de se faire confiance dans le projet. Puis, en tout cas, ce projet-là m'a donné confiance aussi. Mais c'était un beau défi, ça, de laisser aller cette confiance-là, puis de foncer.
Et le résultat, évidemment, c'est la vingt, donc ce récit, ce journal, ce regard, cette réflexion entre le trajet de l'autoroute et la vingtaine. Donc, un livre d'Audrey Beaulé qui est disponible chez Mécanique Générale. Audrey, merci beaucoup.
Merci à toi, c'est un plaisir.
Vous êtes toujours à l'écoute de La vie en BD et on poursuit une démarche qu'on a entamée l'automne dernier, donc c'est-à-dire d'accompagner et d'être accompagné dans des lectures par Stéphane Gravel. On a des rendez-vous mensuels avec lui pour se tenir au courant de ses lectures et pour en faire des suggestions, des propositions. Stéphane Gravel, salut!
Ce que j'aime ça, Raymond. Cette obligation-là de lire de la BD, comme je le dis souvent, là, la vie nous envahit. À un moment donné, on n'a plus le temps de faire autre chose que qu'est-ce qu'on doit faire. Et lire la BD, c'est quelque chose qui souvent passe un petit peu à la fin. Puis, je ne sais pas, mais la bande dessinée reste, moi, c'est quelque chose que j'adore et que j'aime beaucoup, mais ça reste encore quelque chose que tu dis. Je devrais peut-être lire un vrai livre de temps en temps au lieu de juste lire la BD. Fait que j'ai une petite forme de culpabilité tout le temps à lire de la BD, mais là, cette année, j'ai plongé dans des BD vraiment extraordinaires. Puis je me rends compte que, tu sais, on écoute beaucoup la télévision, on écoute des séries télé, on commence à voir dans les séries télé aussi les impacts du confinement. On sent un peu les tournages avec les personnages qui sont à 2 mètres de distance. Il y a un petit côté plexiglas qui est toujours conséquent. Même toujours un peu présent ou des petits trucs pour essayer de séparer des personnages. Mais en BD, le confinement n'existe pas et je pense que ça fait du bien. Les
Oui,
personnages sont proches, ils se touchent.
puis à la limite, en fait, je trouve ça dole que tu sais, tu dises, puis c'est vrai, puis je pense qu'on le vit sporadiquement, ou on se le fait dire, mais l'idée de la culpabilité, de ouais, mais là, quand est-ce que tu vas lire un roman, quand est-ce que tu vas sortir un recueil de poésie, pourquoi tu lis toujours des BD, c'est reste que je pense que tout amateur de BD finit toujours par être confronté soit à ce moment de culpabilité-là qu'on ressent, ou soit à une réflexion par rapport à une culpabilité qu'on devrait ressentir par rapport à la lecture de BD. Ça, pour moi, c'est problématique. Je veux dire, une BD, ça vaut pas moins qu'un roman.
Il faudrait compter les mots, voir pour le fun. Mais non, puis c'est tout simplement une autre forme d'écriture, mais la bande dessinée a été longtemps, longtemps ce qu'on appelait les petits Mickey, puis c'était pour les jeunes, c'était pour divertir les jeunes, c'était la page de journal que moi, quand j'étais petit, que mon père m'arrachait et me donnait pour que je le laisse tranquille pour lire les grands titres. Sinon, j'y parlais tout le temps. Fait qu'il me donnait ma page de bande dessinée. Après ça, quand j'étais petit, c'était les Pif Gadget. Il y avait un petit côté adulte, oui, mais ça restait quand même un truc pour les enfants. Mais là, je pense que la bande dessinée a grandi avec ses lecteurs aussi, là.
Oui, puis
C'est
quand on
jeune, là, la
regarde.
BD.
Oui, effectivement, c'est un médium qui est relativement jeune. Puis aujourd'hui, quand on regarde des titres, je regarde un peu à la liste de lecture du mois. Par exemple, Punk Rock Jesus, qu'on a déjà parlé en club de lecture, bien, il y a de la densité là-dedans, il y a de la réflexion. C'est des livres qui portent, en fait, qui sont porteurs de beaucoup de choses là, pour moi.
Cette bande dessinée-là est assez. Peut sembler assez rébarbative parce que y a un dessin qui est confus, il y a quelque chose qui est très chargé, qui est très plein dans ce punk rock Jesus-là. Mais la BD reflète ce que le titre est, là. Mais j'ai embarqué dans une BD qui est vraiment exceptionnelle à mon point de vue au niveau de la bande dessinée américaine parce qu'il y a énormément de réflexions à faire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux de réflexion dans cette BD-là. L'histoire, grosso modo, je pense qu'on est obligé de la dire un peu, mais c'est que on essaie de faire une émission de télé-réalité avec à partir de la naissance d'un enfant qui lui est supposément le clone de Jésus-Christ. Et c'est comment cette personnalité-là va grandir dans une Amérique contemporaine avec les pros, tout ce que tu veux, pro-vie, pro-choix, l'extrême droite religieuse, ce personnage-là aussi, est-ce qu'il accepte qui il est, est-ce qu'il veut prendre ce personnage-là, il devient une personnalité publique par lui-même à cause de la télé-réalité, à cause de ses possibles origines au niveau génétique. C'est extrêmement intéressant. Et le pire, même si ça a l'air complètement fou, j'ai l'impression que c'est pas si fou que ça. C'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas si loin d'une réalité que ça. Si on pense aux derniers événements où on disait que Trump était un envoyé de Dieu pour pouvoir régler les problèmes de pédophilie à travers
On le dit encore, en fait, dans certains cercles.
Oui, c'est ça, mais c'est on est là, on est dans la paranoïa, on est dans le fantasme, on est dans une folie de croyances qui enlève toute rationalité. Mais mon Dieu que c'est contemporain.
Oui, puis en parallèle, en fait, toutes les réflexions sur la question de l'image. On est une société qui est, oui, en fait, de plus en plus textuelle à cause des médias sociaux, mais le médium visuel, l'image, est en train de prendre prédominance à travers les nouveaux médias sociaux avec des courtes vidéos, avec des mimes, avec de la photographie, tout simplement. Alors, il y a aussi une obsession de l'image qui est en train de s'installer. Et à la limite, en fait, un peu comme on pourrait penser à Warhol quand il s'amusait à désincarner une figure en la reproduisant des centaines de fois dans ses œuvres. Par exemple, on pense au Marilyn ou à ses séries de portraits où, à un moment donné, dans le fond, la personne n'existe plus. Il n'y a plus que l'image qui existe. Donc, on est beaucoup dans ces réflexions-là. Il y a des volets sur les enjeux plus religieux, plus dogmatiques. Il y a des volets sur la relation qu'on a avec l'image, avec ce qu'on projette, avec le fait qu'il y a un être humain qui existe derrière cette image-là, même si on pourrait avoir l'impression qu'elle est complètement désincarnée parce qu'omniprésente. Donc, quand je parlais de densité tantôt, je veux dire, il y a tellement de discussions qu'on peut ouvrir sur Punk Rock Jesus.
Non, c'est plein, 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 plein. Écoute, je l'ai lu. J'ai eu beaucoup de discussions même avec mes jeunes, avec mes enfants ici pour qu'ils lisent cette BD-là puis qu'on puisse en parler. Et là, tu parles de l'image, mais juste la place de la télé dans cette histoire-là et comment la télé crée l'histoire qu'elle veut que les gens regardent, qu'elle va gérer et contrôler les émotions de ceux qui regardent leur show. C'est déjà énorme. Mais c'est drôle parce que je vais en profiter. Je vais faire un lien parce que tu as parlé de Andy Warhol et de ses toiles un peu pop art avec des portraits. Mais il y a quelqu'un qui s'est fait tirer le portrait par Andy Warhol et qui est un personnage de bande dessinée. Et bien, c'est le personnage d'une amitié singulière de Flocke et Rivière. Cette BD-là est une BD qui est tellement extraordinaire. Puis pourquoi je te parle de Warhol, c'est que dans cette histoire-là, à un moment donné, le personnage principal, Albany, qui est un homme qui fait de la radio, qui parle de littérature, qui parle d'art, a rencontré Andy Warhol et Andy Warhol a fait son portrait. Dans la fiction, bien sûr. Mais ce que je trouve super intéressant dans cette BD-là, c'est justement tout le lien entre la fiction et la réalité. que les auteurs vont créer. C'est pas jeune, là. C'est une BD qui doit dater, attends, là, je veux pas me tromper, là, mais qui doit dater des années, certainement des années 80, fin des années 70. Et il y a eu plusieurs tomes à travers le temps. C'est d'un ton ligne claire, c'est très, c'est un petit peu à la mi-chemin entre Jacob et Hergé, si on veut, mais c'est dans cette école-là. Et puis là, ils ont édité un nouveau volume qui est l'intégrale de ces histoires-là de Albany et de Sturgis. C'est extrêmement... C'est du polar. Je viens de faire c'est du polar un peu... on sent un peu dans Agatha Christie, à quelque part dans l'univers. C'est très britannique. C'est très Blake et Mortimer. Ça se passe dans la période du Blitz en Angleterre où les gens sont confinés dans les métros parce qu'il y a des attaques sur la ville. Il y a un couvre-feu et on vit un peu dans cette histoire-là. Et cette histoire-là, bien, c'est vraiment la relation entre les deux personnages tout au long de l'histoire. Puis ces personnages-là sont... Il y a eu, ces personnages-là sont comme réels, c'est-à-dire on y croit. J'avais mis la main à l'époque, puis je peux te le montrer, même si personne ne le voit, là. Mais tu sais, on avait même fait des petites affiches avec le personnage principal parce qu'il faisait de la pub. Il existe le poster de son émission de radio.
On a vraiment joué avec les lignes.
On joue avec les objets, on joue avec l'idée que on raconte l'histoire vraie d'un personnage vrai, mais l'histoire vraie d'un personnage vrai de fiction. Et c'est là que je trouve que cette BD-là a toute sa finesse, parce qu'il y a des lettres qu'il écrit avec avec Sturgis. Donc, ces lettres-là, on va les avoir en forme de lettres et pas nécessairement en BD. Il va y avoir tout un rapprochement fiction-réalité qui est très, très, très intéressant. J'essaie de trouver, en te parlant, là, les titres exacts de tous les albums qui sont parus, mais je pense que si on va voir une amitié singulière, puis qu'on va fouiller un peu sur Internet, là, de Flock et Rivière, on va voir tout de suite là, que Francis Albany et Olivia Sturgis, deux personnages qui se sont aimés d'une histoire un peu particulière et singulière, comme le titre le dit, mais c'est vraiment une belle BD, puis ça a été raconté sur quand même une bonne... vingtaine d'années entre le premier tome et le dernier tome, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on se sent obligé de tout rééditer cette histoire-là, parce que sinon, les vieux sont trop vieux, quoi.
Oui, ça la rend disponible dans une intégrale, en fait, parce que c'est effectivement, quand on regarde ce qui est disponible sur, je pense, dans le fond, il y a effectivement neuf albums, donc neuf albums qui sont proposés et qui ont été regroupés dans une intégrale qui, elle, a été publiée tout récemment, dans le fond. Donc, oui, on est dans les Exactement. Années 80, mais on est dans une sortie relativement récente aussi. Et parallèlement, en fait, je t'envoie... Tu viens de retrouver, en fait, on parlait tantôt de Marilyn, donc Stéphane me présente le portrait refait justement à la Warhol dans donc cette amitié singulière de Flock et Rivière. Et Stéphane, je t'envoie vers un autre titre, dans le fond, un titre qu'on a vu passer quand même pas mal dans les palmarès ces derniers temps, Un travail comme un autre d'Alex W. Inker, un album qui se retrouve chez Sarbacane.
Ça, c'est encore une fois, je lis des belles choses, Raymond. Cette BD-là est une BD d'un homme qui se retrouve en prison, et on raconte un peu son histoire de qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui l'a amené en prison, comment il vit en prison et comment il va faire son retour après la prison. C'est assez simple, mais c'est... ça se passe dans une époque où l'Amérique est en crise. C'est le milieu rural. C'est avant que l'électricité fasse partie de toutes les familles. Ce personnage-là a des ambitions. Il ne veut pas travailler sur la ferme comme les générations précédentes l'ont fait. Il veut travailler dans le milieu moderne, le milieu de l'électricité. C'est un maniaque de l'électricité. Et puis, le cours des choses va faire qu'il va se retrouver en prison à cause d'une, bête décision qu'il va avoir prise au courant de sa vie. Ça va complètement détruire sa famille. Est-ce que ça va détruire sa personnalité? Parce qu'on va essayer de faire de lui la personne qu'on veut qu'il soit. Et malheureusement, cette personne-là n'est pas faite pour le travail qu'on veut lui imposer. Elle n'est pas faite pour vivre dans le monde dans lequel elle vit, dans cette Amérique-là. C'est une BD c'est un bon volume. C'est une BD avec un graphisme qui, lui aussi, est très vieux. Hein. Il y a un petit côté orangé, un petit côté où le dessin ressemble beaucoup à des vieilles BD américaines. Mais l'histoire est profonde. Les personnages sont convaincants. Puis ça fait encore une fois beaucoup réfléchir sur ce grand pays de dite liberté où quiconque peut réussir à faire ce qu'il veut et arriver à ses moyens. Je pense que ce qu'on raconte aussi là-dedans, c'est que si tu n'as pas déjà les poches pleines d'argent pour pouvoir en arriver à tes fins, c'est pas si facile que ça en arriver à ses fins. Encore une fois, c'est une BD avec très introspective sur la personne humaine et sur une personne qui n'est pas bien dans sa peau. C'est une personne qui vit une vie qui n'est pas bien dans sa peau et qui ne trouve pas sa place. C'est un peu l'histoire de Punk Rock Jesus aussi en même temps. C'est une personne qui n'est pas bien, on veut faire d'elle une personne qu'elle n'est pas. Lui, il décide de faire de lui-même une autre personne que celle qu'on veut faire de lui, mais qu'il n'est pas plus la même personne qu'il est. C'est toute la problématique d'essayer de trouver qui on est et où on est et où on s'en va avec ça.
Oui, en fait, j'ai l'impression peut-être en fait, en ce début d'année, on est peut-être un peu en recherche de repères. En fait, à date, c'est ce qui permet à Lise aussi dans tes lectures, mais avec le confinement qui se prolonge, le couvre-feu et le reste, dans le fond, on dirait que en l'absence de contacts sociaux soutenus ou réguliers, on se met dans une perspective de recherche peut-être qui a orienté un peu ton choix de lecture ce mois-ci.
Il s'impose pas mal, mais c'est sûr qu'on a beaucoup. On a beaucoup de temps pour réfléchir dans cette période-là. Anecdote, j'ai beaucoup de tournages à faire ces temps-ci et j'ai beaucoup de routes. Habituellement, lorsqu'on fait de la route, on est deux ou trois dans la même voiture et on discute du projet, qu'est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire pour ça. Maintenant, avec les consignes COVID, on est obligé de prendre chacun un véhicule. On ne peut plus être deux dans un véhicule. Ce qui fait que quand tu fais 5 heures de route tout seul, j'ai dû faire 2000 km la semaine passée, tout seul. À un moment donné, on ne peut pas complètement se déconnecter puis juste se laisser aller dans la voiture. On a toujours quelque chose à réfléchir, puis on se retrouve avec nous-mêmes. Mais je ne veux pas commencer à faire de la psychologie de bottine, là, mais je n'ai jamais été autant avec moi-même que depuis le début de cette COVID-là. Et ça fait réfléchir, ça fait réfléchir.
Et d'autres titres vers lesquels, justement, ces réflexions-là, peut-être aussi, t'ont amené. Il en reste deux, en fait, dont tu voulais nous parler. Je t'y mentionne tout de suite, puis je te laisse les attraper dans l'ordre que tu veux. Tu voulais nous amener sur Dragman de Stephen Appleby chez De Noël et aussi vers Le Fils du Roi de Stanislas Moussé au Tripode.
Écoute, je vais y aller avec Dragman. Pourquoi? Parce que Dragman est exactement dans la suite des autres BD, c'est-à-dire c'est l'histoire d'un personnage qui se cherche. Mais là, cette BD-là, vraiment, mais vraiment, vraiment, Raymond, c'est bon, c'est fort, c'est bien fait, c'est brillant, c'est amusant. Et là, il y a une piste de réflexion tellement intéressante. Dragman, c'est l'histoire d'un homme qui aime s'habiller en femme. Et puis, rapidement, il découvre une paire de collants. Et lorsqu'il enfile cette paire de collants-là qu'il a trouvé dans le fauteuil chez sa mère, eh bien, il réussit à voler. Les collants font de lui un homme volant. Fait qu'il aime s'habiller en femme, il s'habille en collant, et là, par le fait même qu'il est capable de voler, il commence à faire des sauvetages. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui tombent, il fait des petits sauvetages, mais là, et là, on tombe dans un autre niveau, c'est que l'association des super-héros ne sont pas d'accord pour que cet homme-là puisse faire des sauvetages sans qu'il n'ait pas inscrit comme étant un super-héros, parce qu'il n'est pas inscrit comme un super-héros. C'est un hasard s'il a découvert son pouvoir. Et son pouvoir n'est pas un pouvoir qu'il détient, mais un pouvoir qui vient de ses vêtements. Donc, ce n'est pas un vrai super-héros. Et là, on entre dans toute une polémique. Est-ce qu'il a le droit d'être super-héros ou pas le droit d'être super-héros? Mais lui, il veut sauver les gens, parce qu'il a la possibilité de sauver les gens. Mais en même temps, tu dois avoir une assurance pour être sauvé par les super-héros. Si tu n'as pas l'assurance super-héros, c'est dommage, mais les super-héros ne vont pas te sauver. Mais lui, il va sauver pareil parce qu'il n'est pas super-héros. Tu comprends? Fait qu'il y a toute une dimension qui est très intéressante. Et c'est
un aspect bureaucratique, dans le fond, qu'on rajoute.
Oui. Et c'est très britannique. C'est très, très... C'est de l'humour britannique. C'est très britannique. L'auteur, Stephen Appleby, est quelqu'un qui fait du dessin humoristique politique en Angleterre. Et c'est un homme qui s'habille en femme. Fait que c'est extrêmement intéressant parce que toute la problématique de ce personnage-là aussi, que, moi, ce que j'ai adoré, c'est que ce personnage-là se pose la question, quand il découvre qu'il aime s'habiller en femme, il se pose la question pourquoi il aime s'habiller en femme. Il ne veut pas montrer qu'il est... Il ne veut pas dévoiler son identité. Là. Quand j'ai raconté l'histoire tantôt, ça semblait facile et fluide et drôle, mais ce n'est pas juste ça. Là. Il ne veut pas que sa mère apprenne qu'il aime s'habiller en femme. Et tous ses parents lui ont toujours dit qu'il était un homme, mais il est un homme parce que les gens lui disent « Oui, mais donc, tu veux être une femme? » Il dit « Non, il dit, je ne veux pas être une femme, je suis un homme. Je pense comme un homme, mais j'aime m'habiller en femme. » Il y a toute... Donc, cette dimension-là est extrêmement intéressante, d'autant plus que... L'auteur connaît le sujet. Donc, il y a toute la honte de son personnage, mais son personnage est un super-héros en même temps, fait que c'est difficile de... Mais il abandonne son personnage de super-héros, puis il va se marier, puis il va avoir des enfants, il va le mettre de côté, parce que c'est pas correct d'être un gars et de s'habiller en femme, mais il va revenir plus tard, ça va être plus fort que lui. Et l'allégorie que les collants lui donnent des ailes, entre guillemets, c'est-à-dire, entre guillemets, je trouve ça super intéressant parce que je veux dire, c'est comme s'il se libérait de tout et il s'envolait une fois qu'il était bien en femme. Écoute, c'est une BD, encore une fois, avec des dimensions extraordinaires, avec un dessin aussi qui, certains peuvent aimer, certains peuvent pas aimer parce que c'est un dessin qui est extrêmement, extrêmement gestuel, près du gestuel, sommaire, dessin de presse un peu comme on peut voir dans
un côté dans plus Charlie spontané. Hebdo,
exemple. Ouais, il y a un côté très spontané. Mais c'est une histoire qui est merveilleuse. Là. D'après moi, je l'ai lu tardivement, mais cette BD-là est certainement une des traductions une des traductions de l'année en bande dessinée. Là. C'est à mettre entre toutes les mains en 2021. Là. On apprend beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et c'est une BD qui nous amène beaucoup à accepter les gens comme ils sont aussi. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas juste de l'humour, il n'y a pas juste de la folie, mais il y a quelque chose qui fait que quand tu as fini de la lire, tu ne vois pas les choses de la même façon que on les voyait peut-être. Très, très bon. Rapidement,
alors ça, c'est Dragman d'Appleby. Oui, je te laisse aller rapidement avec Le Fils du Roi.
Rapidement, une BD d'une complexité assez, au niveau du dessin, assez extraordinaire.
En fait, le dessin que tu es en train de me montrer, en fait, puisqu'on est à la radio, on ne le voit pas, là, mais la page est truffée de personnages. C'est noir et blanc, mais c'est extrêmement riche et foisonnant, là, la page que tu montres.
C'est d'une densité extraordinaire. Et écoute, c'est pas compliqué. C'est l'histoire d'un fils du roi qui protège son royaume. Et cette BD-là est une BD d'atmosphère, d'action. Il n'y a pas un mot là-dedans. C'est des personnages assez... des petits bonhommes assez particuliers. Je ne suis pas capable de le dire, mais c'est une suite consécutive de motifs, de sens du mouvement. Un peu comme... c'est un peu comme on sent un peu comme où est Charlie là, dans ça, là, tu sais, dans la densité du dessin. Puis il y a un autre côté qui est près du mandala aussi, qui demande une certaine réflexion au niveau de la façon dont c'est construit, pourquoi c'est comme ça. Ce qui fait que c'est une BD qui demande un effort cérébral qui est très intéressant parce qu'on s'amuse à décortiquer le dessin et on s'amuse à comprendre ce qui est écrit sans mots. Et ça, je trouve ça, si on fait suite à comment on a ouvert l'émission tantôt, là, Ben, je pense que c'est, d'après moi, là, plus difficile à lire ça qu'à lire un livre conventionnel. Parce que là, les codes sont multiples. Ce n'est pas juste un alphabet de A à Z qui va créer des mots, qui va créer des phrases, des chapitres et un livre.
En fait, le lecteur se met en quête de sens, le lecteur se met en recherche d'analyse, en recherche d'icônes, comprendre les références. Pour moi, c'est une lecture qui est très active, qui est nécessitée par ce type d'album-là.
Très, 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 très. Une lecture qui est très active et il y a énormément de codes. On se rend compte qu'il y a énormément de codes dans le dessin. C'est un peu comme si on se retrouvait devant des tableaux puis qu'on commence à analyser et regarder et chercher le sens du tableau. Mais là, des tableaux, il y en a 4, 5, 6 par page, et la page elle-même devient un tableau, et la double page, un autre tableau, ce qui fait que c'est une abîme extraordinaire de signes et de sens, qui fait que c'est une BD extrêmement agréable à regarder. Est-ce que j'ose dire lire? J'ose dire lire. Cette BD-là est très plaisante à lire, même s'il n'y a aucun mot. Fils du roi, chez Le Tripode. Le Tripode, habituellement, font une maison d'édition un peu marginale qui fait surtout dans le roman.
Et qui ose beaucoup déjà, même dans le roman aussi, il me semble.
Oui, puis je pense qu'ils ont fait un peu leur fosse avec Ilsenrath, qui est l'auteur qui avait fait le Fuck America, là, qui avait été un roman à succès qui lui est issu des camps de concentration, mais qui réussit à regarder ça et à écrire ça avec une forme d'humour qui est complètement inusitée pour moi, d'avoir vécu des choses comme ça, de réussir à raconter ça avec humour. Et Le Tripode a surfé là-dessus et ils font des trucs un peu marginaux, puis ils sont un peu audacieux. Et cette BD-là est de très audacieuse. Je ne suis pas sûr qu'on aurait sauté là-dessus partout. Là.
Alors, voilà
pour le mois de lecture de...
Un mois animé par une quête de sens, un mois animé par une quête, une recherche peut-être de direction. Et on verra où, c'est justement, Mars nous mènera.
C'est sans fond, la bande dessinée. Là.
On va partout. Et Stéphane Gravel, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Eh bien, voilà qui conclut cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et on se dit à la semaine prochaine.